Restez à l'écoute, voici le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Avec ces nouvelles sanctions, Washington ferme de façon permanente la voie de la diplomatie, selon les mots du porte-parole des affaires étrangères iranien ce matin. Ces mesures annoncées hier par Donald Trump visent surtout les cadres du régime, à commencer par le guide suprême de la révolution. Le département du Trésor américain évoque le gel de milliards de dollars, même si en vérité ce volet de sanctions risque d'être plus symbolique que les précédents. À Washington, Grégory Phillips.
Les précédentes sanctions américaines décidées en avril visaient à couper la manne du pétrole au gouvernement iranien. Cette fois, la Maison-Blanche veut atteindre les plus hauts dignitaires de la République islamique, à commencer par le guide suprême Ramenei. Le guide et ses proches ne pourront plus faire la moindre transaction avec des banques internationales ou des institutions financières. Même chose pour 8 hauts gradés du corps des gardiens de la Révolution que Washington accuse d'être à l'origine de la destruction du drone américain la semaine passée. Mais en vérité, ces dignitaires iraniens ont très peu d'actifs à l'étranger. Le département du Trésor dit que dans les jours qui viennent, le ministre des Affaires étrangères, Zarif, sera lui aussi touché par ces sanctions. Lui, le modéré, est sans doute le plus à même un jour d'entamer un dialogue avec les Américains. Bref, ces sanctions n'auront qu'un effet limité, mais elles permettent à Donald Trump de montrer qu'il ne reste pas inactif après la perte du drone américain en mer d'Oman et après avoir, dit-il, renoncé au dernier moment à mener des frappes contre l'Iran.
Grégory Phillips. Hier soir, le Conseil de sécurité de l'ONU a publié un texte signé par ses 15 membres. Il appelle Washington et Téhéran au dialogue. Aujourd'hui et demain à Bahreïn, les États-Unis présentent le volet économique de leur plan de paix pour le Proche-Orient. Les États-Unis espèrent lever 50 milliards de dollars pour la Palestine et la région dans le cadre d'une conférence économique à laquelle la plupart des pays arabes sont représentés. Un rendez-vous boycotté en revanche par les Palestiniens qui rejettent cette initiative en l'absence d'un règlement politique du conflit avec Israël. Alors que ce matin, Israël a bloqué l'approvisionnement en carburant de la bande de Gaza en riposte à l'envoi de ballons incendiaires lancés depuis l'enclave palestinienne, soumise depuis plus de 10 ans à un sévère blocus. Sous la pression américaine, le Mexique a déployé près de 15 000 soldats et membres de la garde nationale dans le nord du pays pour lutter contre l'entrée de migrants clandestins aux États-Unis. Il s'agit de l'application de l'accord conclu au début du mois avec Washington. En France, ils réclament plus de démocratie participative pour espérer faire passer l'intégration du département de la Loire-Atlantique au sein de la Bretagne. Plusieurs membres de l'association Bretagne Unie ont fait le voyage à vélo pour porter une pétition réunissant 105 000 signatures jusqu'à l'Assemblée nationale. Le rendez-vous est pris avec plusieurs députés. Il a lieu aujourd'hui. Paul Lauré est co-président de l'association. Il a piloté l'opération.
Dans un premier temps, c'est forcément interpeller l'opinion publique, bien évidemment, mais aussi les députés, parce que nous souhaitons qu'il y ait une nouvelle loi qui soit déposée par un groupe de parlementaires de façon à réorganiser le Nord-Ouest et demander aussi un aménagement de la loi de 2015 par un nouveau droit d'option permettant à un département de changer de région. Les 105 000 signatures, c'est important parce qu'au-delà du sujet de la réunification de la Bretagne, il y a aussi le problème de la démocratie en France. On voit bien que notre démocratie est peut-être un peu vieillotte et qu'il faudrait l'aménager et qu'elle soit un peu plus participative, c'est-à-dire que la société civile ait un peu son mot à dire sur ce type de questions, l'aménagement du territoire. On voit bien que l'actualité de ces 6 derniers mois, ce n'est pas un problème uniquement breton, mais c'est bien l'ensemble des Français qui veulent participer à certaines décisions qui sont cruciales pour leur vie, pour leur environnement.
Et pour Pogui, par Adrien Palu et pour France Culture. En Nouvelle-Calédonie, le maire de la commune de Païta, dans la banlieue de Nouméa, et son successeur, Harold Matin, figure de la droite calédonienne, ont été condamnés hier à des peines de prison, reconnus coupables d'avoir acheté des voix en versant des dons, notamment lors des élections municipales de 2014. Harold Martin, 65 ans, a enchaîné les mandats électoraux pendant 35 ans. Il écope de 2 ans de prison, dont un avec sursis, 5 ans d'inéligibilité et 13 000 euros d'amende. 53 départements en vigilance orange à la canicule sont concernés dans une large part du territoire qui s'étend de la moitié est jusqu'à la Dordogne en passant par le centre et la région parisienne. À l'exception de quelques ondées sur la Bretagne ce matin, le soleil devrait briller partout aujourd'hui. Les températures sont comprises entre 18 et 33 degrés avec 18 degrés à Amiens, 24 degrés à Biarritz pour les températures les moins élevées, alors que partout ailleurs on dépassera rapidement les 27 degrés ce matin avec 29 degrés à Lille et à Nice, 31 degrés à Paris jusqu'à 34 degrés à Lyon et à Nîmes. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue, avec Nasser Moussaoui à la technique. Prochain rendez-vous d'actualité sur France Culture, ce sera le journal de midi et demi présenté par Thomas Cluzel.